France Info.
Bonjour Michel Serres.
Bonjour.
Michel Serres, la semaine passée, nous parlions des prothèses et vous me disiez que ces outils font retour aux organes du corps qui leur ont donné naissance. Cette semaine, la beauté. Voilà un mot que nous aurions pu aborder depuis longtemps. Nous avions parlé de la laideur, rien à voir. La beauté est-elle un fait ou subjective? Beauté du corps, beauté des paysages, beauté du geste, la beauté accompagne notre quotidien quand nous en avons la chance et on pourrait dire que dans les pires situations, il reste de la place pour la beauté. C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière, me rappelait mon père, citant Chantecler d'Edmond Rostand. J'aime cette belle foi qui peut dicter notre quotidien, cette merveilleuse confiance que l'on peut avoir dans l'autre ou dans la vie. La beauté, Michel, n'est pas que la publicité et les images stéréotypées. La beauté change avec les siècles et les modes. Les canons de la beauté de Botticelli ne sont pas ceux de Picasso ou de Dali.
Exactement, tout le monde dit que ce qui est beau pour Pierre ne l'est pas pour Paul, et ce qui n'est pas beau pour un Zoulou est beau pour un Parisien, et ce qui n'est beau pour Botticelli n'est plus beau pour nous. Voilà. Alors cela veut dire que le jugement de goût est relatif à la personne, à la culture, au moment de l'histoire et à mille autres conditions. Et bien sûr, on dit des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Eh bien moi je vais en discuter justement de cette relativité-là. Comment se fait-il alors que Don Quichotte, qui a été écrit dans un espagnol très difficile, puisque c'est d'un siècle vraiment passé,
Cervantes.
Comment se fait-il que Don Quichotte caracole encore maintenant en tête dans les lectures du monde entier? Il est cinq premiers cités parmi les plus vendus et les plus lus. Comment se fait-il que les antiquaires vendent à prix d'or des masques venus du Mali à des collectionneurs californiens? Comment se fait-il que la beauté soit universelle? Comment se fait-il que la foule se presse en Allemagne et en Russie pour admirer les trésors de Toutankhamon? Par conséquent, vous voyez bien là que la beauté est indépendante des personnes, des cultures, des langues et du temps. Du coup, j'ai l'impression là que ça ressemble un peu au bon vin, n'est-ce pas? Vous pouvez préférer le Meursault bourguignon au Gros Hermitage rhodanien. Vous pouvez faire ça. Ça dépend de votre goût. Mais il est bien évident qu'on ne peut pas discuter entre une piquette et un cru classé. D'un côté, vous faites de la grimace, de l'autre côté, vous vous délectez.
J'espère.
Et par conséquent, je crois que pour arriver à un tel accord, il faut simplement une petite formation. C'est-à-dire, pour boire, il faut avoir traîné ses guêtres dans les caves et avoir écouté les cavistes, les gens qui savent le vin. Et là, à ce moment-là, ces gens-là vous forment le goût, ils vous forment le palais, si vous voulez, comme d'autres vous introduisent ou vous font experts en mathématiques, en navigation à voile ou
en maçonnerie.
Voilà. Et du coup, je crois qu'il y a un goût. Il y a un mauvais goût et un bon goût. Moi, j'ai connu des fous de Pétrus en Argentine et au Japon et des lecteurs de Molière à Bamako ou à Calcutta. Voyons, j'ai même rencontré un policier à Yokohama qui me disait qu'il ne pouvait plus s'endormir sans lire du Proust.
Merveilleux.
Vous voyez, c'est quand même extraordinaire. Alors,
Flatteur.
Du coup, la beauté n'est pas indépendante, alors, ni des cultures. Je me demande quelquefois si cette stabilité relative de la beauté, contrairement à tout ce qu'on dit sur la relativité, n'est pas due un peu à un effet du temps. C'est-à-dire, en effet, tout est relatif. J'accorde volontiers aujourd'hui que nous sommes un peu branlants sur le jugement de goût qu'on peut avoir sur telle et telle œuvre de peinture ou de musique, etc. Mais à mesure que le temps passe, le temps filtre de façon implacable et rejette les mauvaises productions et garde les meilleures. Homère a résisté au temps. Fra Angelico a résisté au temps. Botticelli a résisté au temps. Et vous disiez que ce n'est pas le même goût aujourd'hui que celui de Picasso. Mais pourquoi alors les foules se précipitent s'il y a une exposition précisément de Botticelli? Elles se précipitent là. Vous voyez bien que là, elles sont sensibles à cette beauté-là. Et par conséquent, je crois que ce qui a le mieux résisté au temps, c'est les cathédrales. Elles sont belles partout, dans tous les détails, dans le plan général, dans les voûtes, dans les arcs-boutants, dans les sculptures des portes, dans les vitraux, dans l'extérieur, dans l'intérieur, il n'y a pas un défaut de nulle part. Et même dans les démons grimaçants des gargouilles, vous voyez. Et donc, je me demande si cette beauté, ce n'est pas l'intégrale de cette perfection. C'est pour ça que je pleure, moi, de n'avoir jamais écrit que des œuvres imparfaites. Et il y a des trous partout, il y a des défauts partout. Et pour finir, j'aimerais bien dire quelque chose de la beauté, justement. Au lieu de dire que je cherche à la définir, je m'en fous de la définir. Mais j'en ai besoin. J'ai trop vécu, si vous voulez, dans ma vie, dans des villes laides et aller dans un pays où on se moque de la beauté pour savoir que j'ai failli en mourir ou au moins m'y étioler. Eh bien, quand je vois les foules en question dont je vous parlais pour l'exposition de Fra Angelico, je vois bien que tout le monde est comme moi, tout le monde a besoin de la beauté. La beauté, c'est très simple, c'est vital, on ne peut pas vivre sans elle.
Eh bien, nous nous retrouvons, Michel, la beauté, vous avez dit, j'en ai besoin. Merci, retrouvez Le Sens de l'Info sur franceinfo.fr. À dimanche prochain.